Alors, nous vous saluons tous depuis cette province du KwaZulu-Natal qui est ce matin humide et froide. Même si il fait froid, nous sommes néanmoins reconnaissants pour la pluie que le Seigneur nous a accordée. Nous vivons aujourd'hui dans des temps difficiles et dans des temps bien différents. Des temps incertains dans bien des domaines.
C'est
chaque jour, comme si chaque jour nous entendions la nouvelle qu'un bien-aimé, un membre de la famille est décédé. Des personnes proches, des personnes peut-être avec lesquelles nous travaillons, et ça nous donne l'impression que ces circonstances sont plus proches de nous que jamais auparavant. Et même si ce sont des temps difficiles, nous devons sans arrêt nous rappeler que Dieu est souverain, que Dieu contrôle toutes choses. Qu'il est encore, lui, sur le trône et qu'il a tout entre ses mains. Et peut-être ce n'est pas quelqu'un qui est décédé, mais nous avons les nouvelles qu'il y a des difficultés. Peut-être, je pense qu'on peut tous dire des difficultés que nous n'avons jamais connues auparavant. Et par-dessus tout, on a l'impression que le diable est déchaîné, essayant par tous les moyens, même plus qu'auparavant, pour nous tromper, pour nous détourner, pour nous rabaisser dans notre marche avec le Seigneur. Et peut-être il en est ainsi pour toi qui écoutes, que les choses dans ton environnement, dans ta vie sont difficiles. Peut-être même le diable utilise les choses de ton passé pour te les remémorer, pour ressortir des vieux dossiers de ton passé, pour t'affecter. Mais en toutes ces circonstances, cela me rappelle quelque chose d'il y a quelques années en arrière. Cela me rappelle lorsqu'une personne est venue me voir et elle est venue en me racontant toutes les difficultés qu'il avait. Et il se remémorait tout aussi les mauvaises circonstances du passé, comment il n'a pas été aimé, etc., etc. Et les choses que cette personne racontait étaient réelles, je savais que ce n'était pas la fiction. Et je me rappelle, je ne savais pas quoi dire à cette personne. Et j'ai pu alors aller voir mon beau-père, le pasteur Stegen, et lui dire, qu'est-ce qu'il faut répondre dans une telle circonstance? On peut dire à la personne, oui, le Seigneur est bon, le Seigneur est amour, etc. Mais les circonstances sont quand même celles qu'elles sont. Alors j'ai posé la question. D'abord, il n'a pas répondu. Et puis nous sommes passés à d'autres sujets, nous avons parlé d'autres choses. Et plus tard, dans la conversation, il s'est arrêté dans ses propos, et au milieu de la conversation que nous avions, il s'arrêtait, il m'a dit, « Dis à cette personne, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, les bonnes, les moins bonnes, les difficultés, les épreuves, toutes choses concourent à notre bien si nous aimons le Seigneur. Si la situation difficile dans laquelle tu te trouves ne te rapproche pas du Seigneur, alors pose-toi la question. Est-ce que ton amour pour le Seigneur est réel? Alors, utilisons chaque occasion, chaque difficulté, chaque épreuve pour dire, Seigneur, comment est-ce que cette circonstance peut me rapprocher de toi? Comment est-ce que ces choses peuvent faire augmenter mon amour pour toi? Alors, toute chose sera bonne à nos yeux. Alors, souvenons-nous de cela. Avant de continuer, nous voulons encore prier. Seigneur, nous te remercions de pouvoir nous rassembler autour de ta parole. Et merci, Seigneur, que tu peux utiliser toute chose pour notre bien. Toutes choses afin que nous puissions grandir, toutes choses afin que nous puissions être renforcés, affermis, toutes choses afin que nous puissions voir ta main dans ces circonstances. C'est pourquoi, Seigneur, sois avec nous maintenant alors que nous ouvrons ta parole, s'il te plaît, parle-nous. Nous ne sommes rien, nous n'avons rien à donner. Mais si toi, tu es là, tu es dans ces moments, alors nous serons nourris. Nous te remercions, Seigneur, pour la pluie que tu nous as accordée, que tu prends soin de nous en toutes circonstances, dans tous les domaines. Nous te prions tout cela en ton nom. Amen. Ce matin, j'aimerais que l'on considère l'histoire de deux rois. Et les premiers versets que j'aimerais que nous considérions se trouvent dans 2 Chroniques, chapitre 35, verset 20. 2 Chroniques, 35, chapitre 35, verset 20. Donc, j'aimerais que nous considérions ces premiers versets et nous lirons un autre passage. Donc, passage dans l'Ancien Testament, 2 Chroniques, chapitre 35, verset 20. Je lis dans la version Semeur. Après tous ces événements, après que Josias eut remis le temple en état, Nécho, roi d'Égypte, partit en guerre à Carchémish sur l'Euphrate. Josias se mit en campagne pour lui barrer la route. Verset 21. Mais Nécho lui envoya des messagers pour lui dire : Roi de Juda, qu'avons-nous à faire ensemble ? Ce n'est pas contre toi que je me suis mis en campagne aujourd'hui. C'est contre une autre dynastie que je suis en guerre. Dieu m'a ordonné de me dépêcher. Garde-toi de t'opposer à Dieu qui est avec moi, sinon il te détruira. Nous lirons jusqu'au verset 21 pour l'instant. Donc ce passage nous parle d'un roi qui s'appelait Nécho. Peut-être en bien des domaines, d'un personnage inconnu. J'ai cherché dans d'autres passages biblique. Est-ce qu'il y a d'autres références à ce roi? Est-ce qu'on en apprend un peu plus sur quel genre de roi il était? Et il n'est mentionné que 9 fois dans 3 chapitres, mais il y a très peu de références sur ce roi dans la Bible. On ne trouve pas de passage qui dirait qu'il était un homme qui craignait Dieu. Nous ne pouvons pas trouver de passage où il est écrit noir sur blanc qu'il servait le Seigneur, l'Éternel. Pourtant, dans ce passage, nous voyons que il a été inspiré par Dieu. Nous ne savons pas de quelle manière. Est-ce par un rêve, par une vision? Nous ne savons pas. Mais toujours est-il qu'il est dit que Dieu lui a parlé, qu'il était inspiré par Dieu. Et par-dessus tout, Nécho était conscient que Dieu lui avait demandé quelque chose. Il était donc conscient que c'était Dieu lui-même qui lui ordonnait quelque chose. Et il avait reconnu qu'il y avait une urgence dans ce commandement. Et Nécho avait réalisé ce que Dieu m'a demandé de faire, je vais mettre tout en œuvre aussi rapidement que possible pour obéir, pour le faire. Alors, pour nous chrétiens, nous pouvons nous poser la question, est-ce qu'il y a encore cette urgence, cette consécration pour faire la volonté de Dieu? Est-ce qu'il y a encore quelque chose dans ta vie qui te prompte à faire la volonté, à dire je vais faire, je veux faire la volonté de Dieu aujourd'hui? Est-ce que lorsque je me lève le matin, je demande et je dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Ici, je ne veux pas utiliser un mauvais terme, mais on pourrait dire, nous voyons ici un roi païen. Et pourtant, il sait, Dieu m'a ordonné, Dieu m'a demandé quelque chose et je ne veux pas perdre de temps pour faire ce qu'il m'a demandé. Bien souvent, même les païens, même le monde peut nous enseigner. Bien souvent, ce sont les gens du monde qui peuvent dire qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste. Et en face, bien souvent, les chrétiens eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Des païens peuvent venir et dire « Oui, nous voyons que Dieu fait des miracles parmi vous. Nous l'avons. » J'ai moi-même expérimenté cela, où un païen est venu il y a quelque temps à la mission et il m'a dit « Est-ce que tu réalises que tu vis un miracle ?» Et pourtant, vous avez des chrétiens qui ne voient rien, qui ne réalisent même pas cela. Et tout ce à quoi ils s'arrêtent, c'est « Ah, les mauvaises choses qui se passent ». Il devrait en être bien autrement. Cela me rappelle souvent ce que le pasteur Sagan a dit. Nous, en tant que chrétiens, nous devrions être les exemples pour le monde. Si nous servons le Créateur de ce monde, alors nous devons être un exemple pour les gens de ce monde. Alors, est-ce qu'on peut se poser la question? Est-ce qu'on est un exemple pour les autres, pour le monde, pour les autres religions? Est-ce qu'un musulman, un hindou, est capable de dire « Ce que toi tu as, je le veux aussi. » En toute chose que je fais, que ce soit dans mes affaires, dans mon shopping, dans ma manière de me comporter, de marcher, est-ce que cela amène ces gens à dire ce que toi tu as, je le veux aussi? Lorsque tu es en ville, est-ce qu'un musulman est capable de dire c'est la manière dont s'habille cette personne, voilà ce que je veux? Si nous ne pouvons pas être un exemple, si nous ne pouvons pas les gagner au Seigneur, alors il nous faut examiner notre cœur et dire, Seigneur, est-ce que mon cœur n'est pas mort? Et je parle aux jeunes garçons, aux jeunes filles, mais laissez-moi m'adresser particulièrement aux jeunes filles. Est-ce que la manière de t'habiller donne envie au monde de dire ce que tu as, je le veux aussi. Voilà comment les choses devraient être. Et si ce n'est pas le cas, alors nous avons un problème. Le deuxième point que j'aimerais mentionner sur ce roi Néco, est que parfois, les choses viennent à nous d'une manière différente de ce que nous attendons. Nous allons continuer à lire. Mais Josias n'a pas écouté le roi Néco. Peut-être Josias s'est dit, « Ah, mais ce roi Néco ne connaît rien, il ne connaît pas Dieu comme moi je connais, et certainement Dieu ne lui a pas parlé. » Mais Dieu est venu différemment. Était-ce peut-être pourquoi, ce pourquoi Josias n'a pas écouté? Nous ne pouvons pas mettre Dieu en boîte en disant « Ah, Dieu doit parler de telle et telle manière et si ce n'est pas le cas, alors je n'écoute pas. » Je ne dis pas que nous devons écouter le monde, nous devons écouter les païens, mais nous devons avoir l'oreille ouverte, que nous puissions avoir l'oreille attentive à ce que Dieu dit. Et peut-être dit-il, cela vient de moi, alors écoute. Cela me rappelle une autre circonstance où une personne est venue me voir en me disant, il m'a raconté l'histoire qu'un assureur, une fois, est venu les voir pour leur vendre une assurance vie. Donc c'était une personne qui vivait avec sa mère, qui n'avait pas de père. Et alors l'assureur est venu et alors l'assureur donc a voulu proposer une assurance vie à la mère. Et la mère a répondu, « Moi, je ne compte que sur Dieu, je ne veux pas vous écouter, je ne veux rien avoir à faire avec vous. » Alors, rassurez-vous, je ne vends pas d'assurance, je vais juste faire une illustration. Donc, cette personne m'a rapporté que sa mère a refusé en disant, « Non, le Seigneur pourvoira, alors je ne veux rien avoir à faire avec vous. » Et cette personne m'a raconté, quelque temps après, ma mère est décédée. Et cette personne m'a raconté que suite au décès de sa mère, les choses étaient difficiles. Nous n'avions pas d'argent pour manger. Et cette personne m'a dit, tu sais, je suis convaincu que c'est Dieu qui avait envoyé cet assureur à la maison de ma mère. Et si ma mère avait écouté, alors les choses auraient été bien différentes. Alors mon point est ne pas nous dire n'obéis pas à l'assureur, mais obéis à Dieu. Aie une oreille attentive à ce que Dieu dit. Et peut-être cela ne viendra pas de la manière dont tu l'attends. Alors nous avons parlé du premier roi, le roi Nécho. Le deuxième roi dont je parlais, le roi Josias. Si vous retournez un peu en arrière au chapitre 34, nous lisons un passage sur sa vie. Donc si vous relisez à partir du verset 1er du chapitre 34, il est dit « Josias avait 8 ans à son avènement et il régna 31 ans à Jérusalem ». Verset 2, il fit ce que l'Éternel considère comme juste et suivit l'exemple de son ancêtre David, sans jamais s'en écarter, ni d'un côté, ni de l'autre. À 8 ans, il est dit, il fit ce que l'Éternel considère comme juste. Alors, enfant, ne dis pas « Ah, oh, je n'ai que 8 ans, qu'est-ce que je peux bien faire à 8 ans ?» Parents, ne dis pas « Ah, oh, ma fille n'a que 10 ans, elle ne connaît rien. » Ici, nous lisons que Josias est devenu roi à 8 ans. Et dès le début, il est écrit qu'il fit ce que l'Éternel considère comme juste. Donc, personne n'est trop jeune pour servir le Seigneur et pour être un exemple. Verset 3. Dès la 8e année de son règne, alors qu'il était encore jeune, Josias entreprit de chercher à plaire au Dieu de David, son ancêtre. Et la 12e année, il se mit à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des pieux sacrés d'Achéra, des idoles de bois sculptés et des idoles en métal fondu. Verset 4, on démolit en sa présence les autels des Baals. On abattit les autels à parfums placés sur ces autels. Il coupa les pieux sacrés d'Achéra, brisa les idoles sculptées ou fondues et les réduisit en poussière qu'il dispersa sur les tombes de ceux qui avaient offert des sacrifices à ces faux dieux. Verset 5, il brûla les ossements des prêtres, des idoles sur leur autel. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Puis il passa dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et jusqu'en Nephtali et fit de même dans les ruines aux alentours. Et vous continuez à lire le passage, comment il a purifié le pays d'Israël, comment il a nommé un certain nombre de personnes. Et par cela, il a fait ce qui était considéré comme juste aux yeux de l'Éternel. Plus tard, quand ils ont purifié le temple, quand ils ont utilisé l'argent pour réparer le temple. À ce moment-là, ils ont découvert les rouleaux de la parole de Dieu. Donc, ces parchemins lui ont été amenés au roi, il les a lus. Vous pouvez lire au partir du verset 19. Lorsque Josias entendit le contenu de la loi, il déchira ses vêtements. Il a lu quelque chose qu'il n'avait pas lu auparavant et il a déchiré ses vêtements. Et vous pouvez continuer la lecture, comment il s'est humilié devant Dieu, comment il a crié à Dieu en disant « Seigneur, nous avons péché ». Et vous pouvez lire la réponse de Dieu, comment il a dit « Je ne ferai pas venir le malheur sur vous, sur cette génération ». Vous pouvez lire comment il a réformé le sacrifice, il a réformé le culte rendu à Dieu et même il a réinstauré la Pâque. Et vous pouvez lire donc jusqu'à la fin ce passage, jusqu'à ce que nous lisons, le passage que nous avons lu en début. Donc un homme pieux qui faisait ce qui est juste aux yeux de Dieu. À partir d'un âge jeune, en faisant ce qui est juste aux yeux de Dieu. Alors, nous pouvons continuer à lire à la suite du passage que nous avons lu tout à l'heure, à partir du verset 22 du chapitre 35. Donc, souvenez-vous, cette situation... Le roi Nécho vient d'Égypte, part en guerre, mais il ne part pas en guerre contre Josias, mais il part en guerre pour aller combattre le roi à Carchemish. Josias s'est senti menacé et alors il a décidé d'aller contre le roi Nécho. Donc, rappelez-vous ce que nous avons lu. Nécho lui a répondu en disant « Dieu m'a ordonné de partir en guerre, alors ne t'oppose pas à Dieu. » Alors nous lisons à partir du verset 22, chapitre 35. « Josias ne voulut pas se retirer et il se déguisa pour aller l'affronter sans tenir compte de l'avertissement de Nécho. » qui était pourtant inspiré par Dieu. Josias vint livrer bataille dans la vallée de Megiddo. Verset 23. Au cours du combat, les archers l'atteignirent. Le roi dit à ses serviteurs, « Emmenez-moi, car je suis grièvement blessé. » Ses officiers le descendirent de son char de combat, le mirent sur son second char et le conduisirent à Jérusalem. Il mourut et fut enterré dans les tombeaux de ses ancêtres. Tout Juda et Jérusalem prirent le deuil pour Josias. Donc, le roi Josias, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est parti? Comment est-ce que tu as pu te retrouver dans une telle situation? Comment est-ce possible qu'après toutes ces années de faire ce qui était juste aux yeux de Dieu, comment, Josias, as-tu pu te retrouver dans une situation sans Dieu. Comment est-ce possible que d'une manière ou d'une autre, on pourrait dire, il semble que Josias a perdu quelque chose qu'il avait. Dans une autre traduction, Dans une autre traduction, il est dit que Josias a persisté dans sa campagne. Il a été averti. On lui a donné un avertissement, mais il avait décidé quelque chose et il a persisté. Et il a voulu faire les choses à sa manière. Et nous avons lu comment il a terminé. Nous ne savons pas, je ne sais pas ce qui l'a amené à ce point. Mais peut-être, peut-être, était-ce parce qu'il se sentait fort. Il avait tout fait, il avait reconstruit le temple, il avait réinstauré la Pâque, il avait tout fait. Peut-être, peut-être à ce moment-là, se sentait-il fort, en se disant « maintenant je suis fort ». Après tout ce que j'ai fait, je peux faire maintenant ce que je veux. La Bible nous enseigne que lorsque nous pensons que nous sommes forts, alors nous devons prendre garde de ne pas tomber. Peut-être est-ce que je me sens si fort, je fais tout pour le Seigneur, je suis impliqué dans l'œuvre du Seigneur, alors maintenant je peux regarder ce que je veux. Peut-être je peux lire ce que je veux parce que de toute façon je suis fort. Peut-être est-ce que je peux un tout petit peu dévier, faire un tout petit peu ce que je veux. Alors prends garde de ne pas tomber. Et nous devons prendre garde à cela. Peut-être le roi Josias a pu aussi se refroidir. Si vous lisez tout le chapitre, nous avons lu qu'il a régné pendant 31 ans. Nous lisons que la Pâque a été réinstaurée au 18e année de son règne. C'est ce que vous lisez dans le verset 19. Et cet événement s'est passé plus tard, à la fin de sa vie. Donc nous lisons qu'à 18e année de son règne, il a réformé, réinstauré la Pâque, et cet événement s'était passé à 31e année. Donc 18 jusqu'à 31, où nous lisons qu'il est mort. Donc pendant 13 ans, nous ne lisons rien de ce qui s'est passé dans ces 13 années. Peut-être était-ce dans ces 13 ans qu'il s'est refroidi, qu'il a oublié le Seigneur. Peut-être il n'était plus enflammé pour le Seigneur comme il aurait dû l'être. Cher chrétien, est-ce que nous sommes encore enflammés pour le Seigneur comme nous devrions l'être, comme au début de notre marche chrétienne? Est-ce que tu te souviens encore du jour où tu as rencontré le Seigneur? Et tu as promis en disant « Seigneur, je veux te servir toute ma vie ». Est-ce que tu te souviens de ce jour où tu as dit « Je vais dire au monde entier ce que le Seigneur a fait pour moi ». Est-ce que tu te souviens du jour encore où tu as dit « Seigneur, oui, prends tout, je te donne tout, je ne veux rien garder pour moi-même ». Si vous continuez à lire le passage sur Josias, il est dit que Josias a donné son propre bétail, ses propres possessions. C'est très rare de lire dans les livres des rois que les rois ont donné leur propre bétail. Et donc Josias avait cette disposition, où il était même disposé à donner ses propres biens, son propre bétail. Alors, est-ce que moi, je suis encore là où j'étais dans le passé? Et je pourrais dire même, est-ce que je suis à un stade supérieur, à une étape supérieure qu'au début, et non pas moins? Est-ce qu'il y a du fruit encore dans ma vie? Du fruit comme il y a pu en avoir dans le passé? Ou est-ce que nous avons, comme nous l'avons lu, est-ce que je suis comme Josias? Est-ce qu'il n'y a plus de fruits dans ma vie? Et alors, est-ce que je suis capable de poser la question et dire, Seigneur, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de fruits dans ma vie? Et si ce n'est pas le cas, alors nous courons le risque de finir comme Josias. Comme je l'ai dit auparavant, Josias, il est dit dans certaines traductions que Josias a persisté dans sa décision. Alors, est-ce que toi aussi, tu es une personne têtue, entêtée, une personne sans cœur tendre, une personne qui n'est pas capable d'être aidée? Personne qui ne fait que persister dans sa voie, malgré les avertissements, malgré l'aide, malgré les questions, il peut y arriver que nous persistons dans nos voies, et même lorsque nous réalisons que cela ne marche pas. Aux yeux de Dieu, la Bible nous en parle. Aux yeux de Dieu, l'entêtement est vu comme la sorcellerie. Alors, pensez donc, Dieu met l'entêtement sur le même pied d'égalité que la sorcellerie. Peut-être tu dis, non, mais moi, je ne suis pas impliqué dans la sorcellerie, je n'ai jamais rien eu à voir avec l'occultisme. Mais sache que si tu es têtu, alors Dieu considère cela sur le même pied d'égalité que la sorcellerie. Ou la désobéissance. Peut-être tu es entêté dans tes voies, et tu continues en disant non, les choses doivent aller arriver de cette manière. Alors sache que non seulement ta mort arrivera un jour, mais peut-être que la mort est aussi tout autour de toi dans ton travail. Tu crées une mort autour de toi. Peut-être même tu es conscient qu'il n'y a pas la vie dans ce que je fais, dans mon travail. Je suis dans l'œuvre de Dieu, mais tout ce que je fais échoue. Cela peut être que ce n'est pas le bon moment, mais peut-être en est-il ainsi à cause de ton entêtement. Et c'est comme si tu continues de te taper la tête contre les autres, parce que les choses doivent arriver comme toi, tu penses. Le point suivant, nous ne lisons à aucun moment dans ces passages que Josias a cherché la volonté de Dieu. Il a considéré l'armée d'Égypte. Il a vu qu'ils arrivaient contre lui et alors il s'est mis en marche pour les combattre. À aucun moment il n'est allé consulter l'Éternel avant de partir en bataille. Malgré le fait que Nécho lui ait dit « Garde-toi de t'opposer à moi parce que c'est Dieu qui m'envoie. » Au moins, à ce moment-là, il aurait pu consulter le Seigneur, consulter Dieu en disant « Est-ce que ce que je fais vient de toi ?» Non, il est dit, il ne voulut pas se retirer. Il a persisté dans sa décision sans consulter l'Éternel, sans prière. Nous ne lisons rien par rapport à cela. Il y a quelque temps, j'étais avec un homme de Dieu. Il s'est levé de la place sur laquelle il était assis pour se déplacer sur une autre chaise. Et en se levant, en changeant de place, il a glissé et il est tombé. Et il s'est relevé et il s'est assis sur la chaise, la deuxième chaise. Et il m'a dit alors quelque chose que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, tu vois, quand je me suis levé de cette chaise pour aller m'asseoir sur l'autre, je n'ai pas prié. C'est pourquoi je suis tombé. Imaginez, combien d'entre nous dirions, ah, si je change de place dans une réunion ou parmi des chaises, est-ce que nous penserions même à prier pour cela? Un homme de Dieu comme cela, voilà ce à quoi il pensait. En toute chose, est-ce que tu es avec moi? Est-ce que c'est ta volonté? Nous avons tous des tâches à faire, nous avons tous des choses à faire tous les jours. Est-ce que nous prions en disant « Seigneur, quelle est ta volonté ? Seigneur, aide-moi. Est-ce que si je monte sur une échelle, est-ce que je dis « Seigneur, protège-moi ? » Oui, nous savons, nous avons l'habitude de prier avant de prendre la voiture, avant de manger. Mais qu'en est-il des multitudes de petites choses tout au long de la journée ? Est-ce que je suis capable de prier, disant « Seigneur, alors que je vais faire cette chose, est-ce que tu veux bien être avec moi ou montre-moi ce que je dois faire ?» La Bible nous enseigne, nous dit « Priez sans cesse ». Alors chaque pas, nous devons le prendre avec le Seigneur. Et si nous ne faisons pas cela, alors nous allons échouer. Le point suivant que je voudrais mentionner, nous lisons que après que Nécho l'ait averti, donc le roi Nécho a averti Josias de ne pas s'opposer à lui, nous lisons que Josias non seulement s'est entêté, mais il est dit il se déguisa. Donc il est dit, Josias ne voulut pas se retirer, il a persisté dans ses voies et il se déguisa pour aller affronter Nécho. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il a voulu se cacher? Pourquoi est-ce qu'il a couvert, il a caché ce qu'il était en train de faire? Pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas révéler la vérité? Était-ce peut-être sa conscience qui le dérangeait? Peut-être, probablement, savait-il qu'il ne faisait pas la bonne chose? Peut-être, savait-il dans son cœur, non, cette décision, je pars en campagne de mon propre chef, cela ne vient pas de Dieu. Et pourtant, il a persisté. Et ainsi, il s'est déguisé. Il s'est déguisé pour continuer à faire ce qu'il était en train de faire, et le faire à sa manière. Alors, est-ce que ta vie et ma vie est un livre ouvert, ou est-ce que nous vivons une vie déguisée, masquée? Certains chrétiens ont parfait l'art de se déguiser. Et ainsi, ils trompent ceux autour d'eux. Et certains chrétiens sont devenus des maîtres en la matière. Ils peuvent avoir une façade et présenter si bien devant les autres. Et ils paraissent si heureux, si plaisants avec la vie chrétienne qu'ils mènent. Et pourtant, dans leur cœur, dans leur esprit, les choses sont bien différentes. Alors, se pose la question, qui crois-tu tromper? Peut-être trompes-tu les hommes, mais quelque part, tu cherches à tromper Dieu. Ce Dieu qui pourtant est celui qui voit toutes choses. Cher chrétien, est-ce que ta vie est une vie de tromperie, de déguisement, ou est-ce que ta vie est le reflet de ce qu'il y a dans ton cœur? Tu peux te camoufler, vous savez ce qu'est un camouflage. Lorsque des soldats attaquent les ennemis, alors ils se camouflent. Mais ils ne sont pas des plantes, ils ne sont pas des arbres. Mais alors ils utilisent des branches, ils utilisent des feuilles, ils utilisent toutes sortes de choses pour paraître comme des arbres. Mais ils ne sont pas des arbres ou des buissons. Alors toi, de même, tu peux mettre toutes ces choses chrétiennes sur toi-même. Tu peux parler comme un chrétien, tu peux paraître comme un chrétien et ainsi te revêtir de tout l'apparat du bon chrétien. Mais dans ton cœur, tu sais, je ne vis pas en accord avec ce qu'il y a dans mon cœur. Peut-être tu parles avec un conseiller, avec une personne âgée, une personne aînée. Et alors tu parles avec tant de respect. Peut-être même tu es capable de confesser tes péchés de manière si belle, mais Dieu n'est pas dupe. Peut-être la manière dont tu réponds, quand on te pose une question, tu réponds avec tant de douceur et une belle réponse. Mais peut-être dans ton cœur, tu te moques de la personne qui t'a posé la question. Ainsi, tu ne fais que déguiser et camoufler ce qui est dans ton cœur. Peut-être même, quand on te confronte sur certaines situations, tu es capable de dire « Ah oui, non, je ne suis pas sûr, je ne me rappelle pas bien ». Et pourtant, dans ton cœur, tu sais de quoi on parle. Tu sais très bien. Alors, est-ce que ta vie chrétienne est réelle, est authentique? Ou est-ce que peut-être ici, tu as une vie chrétienne juste pour avoir un travail? Tu as une belle façade. Est-ce que ta vie chrétienne est authentique? Ou est-ce que tu ne présentes, fais que présenter bien pour avoir un travail, avoir à manger et un toit? Si tu ne réalises pas cela, alors prie pour que Dieu le révèle. Prie en disant, Seigneur, s'il y a quoi que ce soit comme cela, alors révèle-le, expose-le. Révèle-le dans cette vie afin de pouvoir le corriger. À moins que tu réaliseras ces choses quand il sera trop tard dans les flammes de l'enfer. Dis, Seigneur, s'il y a quelque chose de tromperie, s'il y a une quelconque tromperie, hypocrisie, alors révèle-le. Que le monde entier puisse le voir afin que je puisse le corriger. Mais vous savez, il y a des gens pour lesquels Dieu effectivement révèle ces choses, comme le roi Josias qui a été entêté. Peut-être tu es comme ce roi Josias. Tu continues à nier. Tu continues à nier en disant non, non, ce n'est pas ainsi, ce n'est pas les choses, ce n'est pas la réalité. Alors peut-être que tu te réveilleras quand il sera trop tard. Comme Josias. Est-ce que ta vie est dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu es capable de dire, d'affirmer ce que je fais, la manière dont je le fais, c'est la volonté de Dieu? Charles Spurgeon a dit, si ta volonté est la volonté de Dieu, alors tu auras ta volonté. Si ta volonté devient la volonté de Dieu, alors c'est ta volonté qui primera. Alors, imaginez-vous bien, quand vous dites c'est la volonté de Dieu, mais en fait c'est votre volonté, alors Dieu te laisse faire. Mais si c'est la volonté de Dieu et non pas ma volonté, est-ce que nous sommes capables de dire « J'ai cherché le Seigneur et ce que je fais, c'est la volonté de Dieu en toute chose, tout ce que je fais. » Si le Seigneur me révèle que j'ai fait une erreur, alors est-ce que je suis capable alors de me lever et de dire d'assumer en disant « Oui, j'ai fait une erreur, je me suis trompé. » Vous savez, nous sommes privilégiés ici parce que nous avons des personnes âgées, des personnes qui ont en nombre d'années le double de notre âge et qui ont ainsi beaucoup plus d'expérience. Et nous pouvons aller et nous pouvons dire, veuille prier avec moi, s'il te plaît, je ne sais pas quoi faire. Et malheureusement, bien des chrétiens veulent faire les choses tout seuls. Et nous lisons, c'est ce que il se passait dans la Bible. Si vous lisez dans les rois, combien de rois allaient voir les prophètes en disant, cherche la face de Dieu pour révéler ce que je dois faire. Pourquoi est-ce que toi, chrétien, tu ne fais pas cela? Pourquoi est-ce que tu te prives de cette grâce de pouvoir aller prier avec quelqu'un en disant « Je suis dans cette situation et je ne sais pas quoi faire. Est-ce que tu veux prier avec moi ?» Et alors nous sommes fous, nous sommes insensés si nous n'utilisons pas ce privilège. Et alors, quand les choses vont mal, nous nous plaignons. Nous pouvons prier de notre côté, disant « Seigneur, que je puisse faire ta volonté », mais nous pouvons aussi prier avec un aîné. Alors, laissez-moi conclure avec les paroles de Charles Spurgeon. Est-ce que tu es en Christ ou est-ce que tu n'es pas en Christ ? C'est l'un ou l'autre. Est-ce que tu t'es enfui pour te réfugier en lui, ou est-ce que tu ne fais que ce que toi tu veux? Est-ce que tu es capable d'aller vers le Seigneur en disant, Seigneur, par moi-même, je ne peux pas. S'il te plaît, montre-moi quelle est ta volonté. Est-ce que tu es un étranger de l'Évangile? Est-ce que tu es étranger à cet Évangile? Tu fais les choses par toi-même, alors si c'est le cas, tu es étranger avec cet Évangile. Si tu te déguises, alors tu es étranger à cet Évangile. Si tu vis ta vie comme toi tu veux, alors tu es étranger à cet Évangile. Tu ne le connais pas. Les choses que nous avons été enseignées au travers du réveil, tu ne les connais pas. Donc, je dis, tu es étranger à cet Évangile. Prie pour que le Seigneur t'ouvre les yeux. Il continue en disant, viens et sois honnête avec ton propre cœur. Laisse ta conscience te dire oui ou non. Qu'elle puisse juger sur qui tu es vraiment. Tu ne peux pas jouer sur les deux tableaux. Tu ne peux pas dire oh, un jour je prie et un autre jour je ne prie pas. Tu ne peux pas dire ah ça je prends mais ça je ne prends pas. Donc Spurgeon écrit, dit si tu pries, alors ne mets pas des si ou des ou dans la réponse que tu attends. Ne dis pas « oui, mais à condition que cela, ceci, ceci ». Peut-être tu dis « ah, mais ces personnes m'ont maltraité ». Peut-être tu dis « oui, mais ils ne m'écoutent pas, ils ne me comprennent pas ». Ainsi, tu dis ceci ou cela. Non, c'est une réponse franche à ta propre âme. Et s'il y a un doute, s'il y a un quelconque doute, alors que tu n'aies pas la paix jusqu'à ce que ce doute soit dissipé. Tu sais où tu te tiens. C'est pourquoi je t'encourage. Ne te repose pas jusqu'à ce que ce doute soit dissipé. S'il y a un quelconque doute, alors laisse-moi te dire, tu es sur un mauvais chemin. Si tu dis oui, je pense que oui, cela devrait être ainsi, j'essaye faire tout mon possible. Alors sache que tu n'es pas au point où tu devrais être. Seulement, lorsque tu peux affirmer en disant oui, je sais, alors à ce moment-là, tu es sur le bon chemin. Mais chacun sait, est capable de dire voilà où je me tiens. Capable de dire, d'affirmer, est-ce que ma vie est un livre ouvert ou est-ce que c'est un livre déguisé? Nous avons lu comment Josias, après sa mort, le peuple entier s'est lamenté et l'a apporté le deuil. La nation entière a souffert à cause de sa désobéissance. Et pour lire la suite, Nécho a pris le pouvoir et c'est lui qui a imposé le roi sur Juda, sur Israël. Et tout le peuple en a souffert Alors sache ce péché avec lequel tu vis, ce péché avec lequel tu te déguises. Sache que non seulement toi, mais aussi ceux qui t'entourent souffriront à cause de cela. Alors prends garde que la colère de Dieu, de ce Dieu qui voit ton cœur, qui connaît ton cœur, alors prends garde que sa colère n'affecte pas ceux qui t'entourent. Si c'est ça que tu veux, alors mets en ordre cette chose et vis une vie qui soit ancré en Christ. Et lorsque tu seras confronté à une telle question, alors tu peux être affirmé avec certitude. Voilà la vie que je vis. Et je peux te promettre, tu ne reviendras jamais en arrière. Tu ne retourneras pas en arrière. C'est une grâce de ne pas retourner en arrière. Mais si tu as expérimenté cette vie avec le Seigneur, alors tu affirmeras aussi, voilà la vie que je souhaite, que je veux, et je ne veux pas retourner en arrière. Une remarque ? Une remarque avant de terminer cette réunion avec ce que je voulais dire. Donc, une remarque par rapport au fait que nous devons être sûrs que Dieu approuve que ce que nous faisons est dans sa volonté. Cela me rappelle ce que le pasteur Stegen a dit dans le passé en disant « Si alors il nous rappelait « Si tu cherches la volonté de Dieu dans quelque chose et que tu as 9 feu vert sur 10, mais que tu as un feu rouge, alors ne le fais pas. Quand j'ai entendu l'histoire de ce roi Josias ce matin, il y a certains péchés qui sont manifestes, que le diable utilise de manière manifeste, mais que nous sommes capables de voir ou de réaliser. Par exemple, le vol, pour moi, la tentation de voler quelque chose de quelqu'un. Peut-être la tentation de vouloir coucher avec la femme ou le mari de quelqu'un d'autre. La tentation de te mettre en colère et de frapper quelqu'un, la tentation de mentir pour te sortir d'une mauvaise situation, alors là la tentation est évidente et c'est une tentation évidente pour pécher que le diable te présente. À ce moment-là, il n'y a pas de doute. Parce que tu sais que cela est un péché manifeste. Tu n'as alors pas de questions et de doutes par rapport à cela. Mais parfois, il y a aussi d'autres péchés qui sont bien plus subtils et qui ne sont pas aussi clairs et, on pourrait dire, aussi évidents, un péché évident. Et pour moi, c'est ce qui semble être arrivé avec ce roi. J'ai l'impression, en lisant dans cette histoire, que l'orgueil, le péché d'orgueil, s'est petit à petit immiscé dans le cœur de Josias. Et peut-être, il s'est confronté à Nécho, roi Nécho, parce que Josias s'est vu grand à ses yeux. Et alors, il a commencé à s'impliquer dans cette bataille, dans cette situation où il n'aurait pas dû être. Peut-être même, cela avait l'air d'être la volonté de Dieu de se confronter à Nécho. Josias était un roi qui respectait Dieu. La nation d'Israël célébrait la Pâque. C'était un temps merveilleux et Josias avait servi le Seigneur toute sa vie. Et pourtant, de l'autre côté, Nécho était le roi d'Égypte, était un roi païen. Et ainsi, si Josias conquis, s'il arrive à conquérir le roi d'Égypte, alors il allait agrandir le territoire, il allait même avancer, agrandir le royaume de Dieu. Vous savez, voyez, ce péché était un peu caché, un peu couvert, déguisé. Cela paraissait être juste, cela paraissait être venant de Dieu, comme étant venir de Dieu. Mais cela était en fait un acte d'orgueil. Paul a écrit aux Philippiens, il écrit en disant « Je prie que vous puissiez discerner ce qui est juste dans une situation particulière. Et discerner ce qui est juste, alors nous devons avoir un esprit sobre. C'est comme si ce roi Josias n'avait pas un esprit sobre, d'être sobre en toutes circonstances. C'est pour moi un des plus grands défis que vit le chrétien, en toutes circonstances. Pierre a écrit « Soyez sobre, soyez vigilant, parce que le diable est comme un lion rugissant, prêt à dévorer. Parce que, mes chers amis, chaque situation dans laquelle toi ou moi nous sommes confrontés, il y a différentes perspectives, il y a différentes manières de faire. Parce qu'à ce moment-là, dans chaque situation, il y a différentes manières de voir les choses, différentes manières de répondre à cette situation. Il y a la manière humaine, manière mondaine de répondre à telle ou telle situation. Il y a la manière charnelle de répondre à cette situation. Oui, peut-être tu combats pour la bonne cause, mais tu le fais de manière charnelle. Mais il y a aussi une manière spirituelle de répondre à telle ou telle situation. Il y a une manière de répondre à une situation en te basant uniquement sur ce que tes yeux voient. Il y a certaines situations tu peux répondre à certaines situations en écoutant la voix de Dieu, en ayant ses yeux spirituels, parce que peut-être il y a des choses qui échappent aux yeux, des puissances démoniaques hein, qui sont impliquées. Alors donc, être sobre, c'est de voir dans chaque situation comment est-ce que je réagis. Est-ce que je dois me parler? Est-ce que je dois me taire? Est-ce que si je réagis de telle manière, est-ce que je vais offenser quelqu'un ou est-ce que je vais être offensé, etc. Donc il y a différentes manières de voir une situation. Et le péché peut venir de manière déguisée, comme cela l'a été le cas pour Josias. Et peut-être tu as même une raison logique avec ce que tu fais, et peut-être même une justification où tu fais les choses avec une manière logique, et pourtant tu pèches parce que tu ne fais pas les choses selon la volonté du Dieu, parce que tu n'es pas sobre dans ton entendement. Et aux yeux de Dieu, ta manière de faire est vue de manière, comme une manière arrogante, comme une manière hautaine. Et pourtant, tu penses faire la bonne chose. Et pourtant, dans aux yeux de Dieu, tu fais les choses de manière orgueilleuse et tu rates, comme Josias a raté dans cette situation. Alors, souvenons-nous, mes amis, la tentation ne vient pas toujours comme une tentation très claire et évidente de péché. Parfois, cela vient de manière cachée et la réponse est dépendante de l'état de ton cœur. Est-ce que tu es humble et brisé? Si tu es humble et brisé, alors tu es capable de discerner la situation. Tu es capable de voir la situation. Par contre, si tu es orgueilleux, si tu as un cœur hautain et plein d'orgueil, alors tu verras la situation d'une manière différente. Et si tu ne réponds pas à cette situation de la bonne manière, alors tu porteras atteinte, tu porteras honte à l'évangile de Jésus-Christ. Parce que tu te considères plus grand que ce que tu ne l'es vraiment. Et tout cela peut mener à une punition désastreuse que Dieu va t'infliger. Désastre, comme pour Josias. Josias a été non seulement tué, mais la nation d'Israël a perdu la bataille contre Nécho. Mais cela peut être encore plus subtil. Dieu peut retirer sa main de toi et alors la mort vient sur toi. Ça n'a pas d'importance combien tu prêches, combien tu es impliqué dans l'œuvre de Dieu. Il y a comme un esprit de mort dans ce que tu fais. Parce que Dieu s'est retiré. Tout doucement, de manière feutré, l'Esprit de Dieu s'est retiré. Et pourtant, tu continues dans ton orgueil, tu continues à arranger les choses, à faire l'œuvre de Dieu, à faire toutes sortes de choses. Et Dieu restait en arrière, et toi tu continues, et tu cours en avant, et Dieu n'est plus avec toi. Et ce n'est pas si subtil et évident, mais que le Seigneur puisse nous ouvrir les yeux et nous révéler là où nous avons fait une erreur, et que là, il puisse te donner le courage et les tripes pour retourner et mettre en ordre là où tu as fait une erreur, là où tu as échoué. Mais sois sobre, sois vigilant, parce que ton ennemi, le diable, rôde, rugissant, prêt à dévorer qui il peut. Même dans la vie de tous les jours, peut-être même sans grande crise, sois sobre, sois vigilant, parce que le diable, ton adversaire, rôde. Et l'adversaire en toi, le vieil homme, le vieux cœur, le cœur qui est trompeur par-dessus tout. Quel exemple précieux, quelle parole précieuse nous avons entendue ce matin. Et je ne peux que dire que le Seigneur nous fasse grâce. Qu'il m'aide à marcher avec lui en humilité, en étant brisé et en étant dépendant de lui et en restant sobre. Nous voulons prier. Père céleste, accorde-nous la grâce d'implorer ta direction, d'implorer ta voix dans tout ce que nous faisons, afin de te suivre en toutes choses, en tout ce que nous faisons, et de te suivre en pleine humilité. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, nous le demandons. Amen. Est-ce que vous me permettez d'ajouter encore quelque chose? Il a mentionné, Nico a mentionné cette anecdote de cet homme de Dieu qui s'est levé d'une chaise pour aller à l'autre, qui est tombé, et qui a dit « Ah, je n'avais pas prié à ce sujet ». Cela ne veut pas dire que le Seigneur ne voulait pas qu'il change de chaise. Peut-être, oui, le Seigneur voulait qu'il change. Mais nous pouvons changer de situation, comme changer cet exemple, changer de chaise, mais en disant « Seigneur, aide-moi dans cette situation, aide-moi lorsque je change ». Si vous entendez certaines personnes prier quand elles partent en voiture, cela ne veut pas dire qu'elles sont folles et qu'elles font choses de manière folle. Ça ne veut pas dire ne prie pas parce qu'ils pensent qu'ils sont dans une mauvaise situation et que c'est pas juste de prendre la voiture. Mais c'est aussi pour dire « Seigneur, garde-nous » parce que nous savons que des milliers de personnes meurent régulièrement dans des accidents de voiture. Donc ce n'est pas le fait. Merci.